On est arrivé ici, on a vécu comme ça. Et après, papy faisait pas mal de petits travaux à côté. Comme il avait des jours de repos, il allait faire des jardins à droite et à gauche. Comme ça, ça comme on dit, ça mettait un peu de beurre dans les épinards. Hein. On a toujours fait comme ça. Hein.
Les gens d'ici.
Une série de portraits sonores qui racontent le territoire.
Alors, il est retombé dans la charcuterie, le commerce. Là, au début, avant que Tantin Dédé, qu'il hérite de ses parents, alors ses parents, ils faisaient que les marchés. Et Dédé, il a continué à faire comme ses parents. Après, ils ont vendu la charcuterie et Dédé l'a gardé qu'à faire les marchés. Hein. Il fait que les marchés. Dédé fait que les marchés maintenant, voilà. Et voilà, et maintenant, il est à la retraite aussi. Mais c'est comme ça qu'on a vécu. Ah, notre vie, elle aurait été plus belle, hein.
Les gens d'ici.
Une série de portraits sonores qui racontent le territoire.
Nous sommes à Millau, rue de la Capelle, avec Michel, luthier guitare. Bonjour Michel.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter ?
Eh bien, je m'appelle Michel Cassin et je suis installé rue de la Capelle depuis maintenant un peu plus de 11 ans, puisque j'attaque ma 12e année juste depuis le début du mois. Voilà, donc je fais de la lutherie guitare. Je fabrique principalement des guitares acoustiques, un peu de plusieurs modèles folk, classiques, hawaïennes et... très peu de guitares électriques en fait. J'en fais plus beaucoup maintenant, ça m'intéresse moins. Voilà, donc guitare folk acoustique, c'est le travail du son qui m'intéresse dans le travail du bois.
D'accord, et donc vous venez de dire que c'est votre 12e année. Et avant, c'est une reconversion du coup ?
Oui, c'est une reconversion. Avant, j'étais dans l'électronique de formation électronicien et travaillais dans des sociétés d'électronique, donc... c'est un passé, je me suis reconverti il y a 13 ans. Mais c'est toujours un peu d'actualité l'électronique, puisque je fabrique du coup un préampli que j'ai pour mes guitares et que je fournis aussi à d'autres luthiers et que j'installe aussi dans les guitares des gens qui veulent électrifier leur guitare acoustique. Donc je propose mon propre système, donc c'est très bien comme ça.
D'accord, donc c'est une particularité de votre artisanat.
C'est une ressource supplémentaire, on va dire. Mais après, au niveau, ça reste de l'électronique. Donc c'est bien parce que ça me permet d'avoir une palette de tâches bien différentes au niveau de... Déjà que la lutherie amène pas mal de petites opérations toutes différentes qui cassent un peu la monotonie du travail. Et l'électronique est en plus un autre volet qui me permet de varier un peu mon activité, quoi, c'est bien.
Donc l'électronique, c'est un lien entre votre ancien boulot et votre nouvelle activité de luthier. Mais comment en êtes-vous arrivé à devenir luthier ? Enfin, comment ça vous est venu ?
J'aimais beaucoup le travail du bois. Je fabriquais quelques meubles pour le plaisir. Mon père avait des outils. Donc quand j'étais petit déjà je le regardais un peu travailler et j'aimais cette odeur de bois. Et un jour où j'avais envie vraiment de me recentrer un peu et faire quelque chose qui me plaise vraiment et surtout d'être autonome en fait. Et donc je me suis tourné vers la lutherie parce que j'étais guitariste amateur et j'aimais bien bricoler un peu sur mes guitares aussi. Et donc j'ai recherché une formation Et je me suis formé chez un luthier qui s'appelle Claude Fouquet, qui s'appelait puisqu'il est décédé maintenant. Voilà, Claude Fouquet qui lui s'était reconverti dans la formation. Et donc il proposait des formations vraiment pour des personnes qui voulaient vraiment se lancer dans ce métier, quoi. C'était pas fabriquer juste une guitare pour son plaisir, c'était vraiment fabriquer et concevoir en partant du plan jusqu'à la réalisation de l'instrument. Donc il y a la fabrication des moules, de tous les outils spécifiques. Et cette formation a duré 9 mois. Donc je suis resté dans son atelier pendant 9 mois. On était plusieurs stagiaires. Et c'est une formation très complète en fait. Mais seulement pour la guitare. Mais pour l'instant, moi, c'est ce qui m'intéressait juste.
Vous habitiez avant à Millau ou vous êtes installé par rapport à la lutherie?
Non, j'habite à Millau depuis une trentaine d'années et je tenais absolument à rester sur Millau puisque c'était une région que j'adore, quoi. Je suis moi-même lotois d'origine, donc je suis un peu voisin. Disons que j'étais venu sur Millau finalement pour c'est l'attrait du vol libre. Je faisais du deltaplane et donc je me suis installé à Millau pour ça et j'y reste pour le cadre de vie.
Est-ce que vous avez eu de l'aide pour vous installer auprès de du département ou d'autres institutions, associations ?
Oui, j'ai été accueilli déjà par la pépinière d'entreprise de Millau. Donc je suis resté en pépinière d'entreprise, mais dans un local en ville, donc un atelier boutique en ville qui est géré par la communauté des communes pour... Et puis au lancement de mon projet, donc j'ai eu de l'assistance pour la création d'entreprise et j'ai eu en plus un concours au départ, donc j'ai eu le prix du coup de cœur en fait, un concours de... Attends, je me souviens plus comment c'était, comment on l'appelait ce concours. Bon, il y a trois prix, quoi. C'est par rapport au projet de développement, quoi, en fait. C'est au projet de... Donc c'est au niveau de la communauté des communes, de la maison des entreprises surtout. C'est la maison des entreprises qui tous les deux ans, je pense, font un concours pour les projets avec des orientations qui peuvent être... orientation thématique, style projet en respect de l'environnement ou propre à environnement. Et puis après, il y a des coups de cœur sur des projets qui provoquent un peu un coup de cœur du jury, quoi. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'était un coup de cœur sur un instrument que j'avais fabriqué à ce moment-là, quoi. Donc ça, c'était il y a 11 ans environ. Voilà, donc ça m'a bien aidé à démarrer.
Oui, donc c'est directement dès le début.
Oui.
Donc pour le démarrage, un coup de pouce. Et sinon, je me posais plusieurs questions du coup sur la partie plus fabrication. Par rapport à vos essences de bois, comment les choisissez-vous par rapport aux guitares que vous fabriquez.
Alors il y a deux aspects à voir, il y a le côté esthétique du bois et puis après il y a le côté acoustique. Je fabrique des guitares, je fabrique ce que j'ai envie de faire, donc je vais composer moi avec, je vais faire mes choix de bois par rapport à l'instrument que je veux faire et après je fabrique aussi sur commande. Et sur commande, je dois prendre en considération les desiderata de mes clients qui vont être autant sur l'esthétique que sur l'acoustique. Donc moi, je suis là en fait pour les orienter au niveau de l'acoustique en fonction des bois, de ce qu'ils veulent faire, de style de jeu qu'ils ont. Je vais leur proposer des essences de bois, mais il y a quand même une grosse partie du son qui va être liée au travail du bois, notamment à la sculpture du barrage, de la table. Donc il y a quand même une certaine marge de liberté qui vont permettre de pouvoir répondre à, finalement d'associer le côté esthétique et en même temps l'acoustique avec des bois plusieurs types de bois, donc il y a des bois tropicaux et des bois non tropicaux qui sont très bien aussi. Voilà.
Comment vous vous fournissez en bois ?
Tout ce qui est bois exotique passe par des importateurs. Je me fournis rarement en direct avec les fournisseurs, pour tout simplement parce que il y a des bois qui sont maintenant classifiés au niveau du CITES, donc tout ce qui est palissandre sont des espèces qui sont protégées et très réglementées au niveau de l'exploitation. Et ce qui fait que je préfère passer directement par des importateurs qui ont normalement des démarches bien plus contrôlées que des approvisionnements. Moi, je peux très bien recevoir des propositions par le biais du Facebook ou comme ça, qui viennent d'Inde ou des Philippines, mais qui sont des réseaux qui ne sont pas du tout contrôlés. Donc je ne suis pas dans cette démarche-là. Je suis dans une démarche où je veux m'approvisionner et être sûr que je ne contribue pas à des réseaux malhonnêtes, on va dire. Donc les bois exotiques passent par des importateurs qui se trouvent principalement en Espagne. Après j'ai un autre importateur aux USA. Enfin un importateur, c'est pas un importateur, là c'est un fournisseur aux USA, vraiment pour des bois spécifiques qui sont pour les styles de guitare hawaïenne. Donc le style koa, qui sont des bois endémiques des îles Hawaï. Donc là, j'ai mon fournisseur qui se trouve aux USA.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous faire un lien entre les essences de bois, une essence en particulier et une certaine couleur acoustique ?
Oui, et par exemple, les guitares classiques, c'est souvent qu'on utilise... du palissandre indien associé à leur entable, à de l'épicéa ou du cèdre. Le son va avoir surtout la table. Le palissandre va amener une palette assez étendue au niveau du spectre acoustique, et l'épicéa va amener de la dynamique, va amener de l'expressivité, et au contraire le cèdre va amener un peu plus de rondeur et finalement de sécurité aussi. C'est-à-dire que quand on va attaquer la corde, la manière dont on attaque la corde, quelle que soit la manière dont on l'attaque, le cèdre va amener une note qui va mourir un peu toujours de la même manière. Donc ça a tendance, le son, à converger vers une finalité qui est toujours la même, alors que l'épicéa va être très sensible à l'attaque de la corde, et donc on va pouvoir avoir un jeu beaucoup plus expressif mais à la fois un peu plus risqué aussi, parce que tous les peines qu'on peut faire dans le jeu vont s'entendre en fait un peu, plus ou moins quoi. Donc c'est la contrepartie d'avoir de l'expressivité. Voilà, donc ensuite, si on veut une guitare qui a beaucoup, un peu plus, encore une dynamique accentuée, avec par exemple pour de la pour du flamenca, on va plutôt utiliser dans le fond les églises, plutôt que de prendre du palissandre, on prendra du cyprès, qui va être un bois qui va amener un peu plus d'explosivité en fait au rendu acoustique.
À la place
du
palissandre, avec du coup de l'épicéa toujours.
Ouais, principalement épicéa en table et cyprès en fond et éclisse.
Donc là, on a deux essences qui donnent de l'expression. Ok. Et par exemple, si on veut, est-ce que entre une guitare et une basse, par exemple même une basse acoustique, on utilise aussi des bois comme le cyprès ou l'épicéa, et ça va surtout jouer sur les cordes, ou il faut quand même un bois qui va amener certaines sonorités.
Les cordes aussi vont participer au jeu. Donc c'est vrai que si on veut un son un peu plus rond et doux, on pourra s'orienter vers de la corde nylon pour basse. Et du cèdre aussi, qui sera très bien pour la table. Et, Et on va retrouver un peu les mêmes caractéristiques de bois, en fait, au niveau des sons du rendu, quoi.
Est-ce que vous pouvez me faire visiter un peu votre boutique et votre atelier ?
Allez, on y va.
Merci. Alors, nous rentrons dans la boutique. Donc là, nous sommes dans l'entrée, c'est ça ?
La boutique accueil, où j'ai un petit établi quand même pour faire des réglages de guitare. Ici, c'est l'atelier où je fabrique les guitares. Donc c'est là que je fais même du débit de bois quand j'achète aussi du bois. En France, toutes les essences un peu européennes, style noyer, érable, j'achète des plateaux que je débite ici, donc c'est pour ça que j'ai une scie un peu plus grosse que ce qu'on pourrait... Quand on travaille avec des morceaux déjà des prédébités pour la lutherie guitare...
Donc des gauchis aussi.
Ceci, j'en aurais pas besoin sinon.
Des gauchis aussi.
Et... après, j'ai raboteuse dégauchisseuse qui me permet de passer au deuxième stade. Et puis, j'ai calibreuse pour amincir aussi et des ponceuses. Donc ça, c'est une table toupie, une petite affleureuse montée pour faire des feuillures. Et ça, ce sont les principaux outils électro... et électrique en fait, et après c'est des rabots, des ciseaux et des cales à poncer, voilà, pour le, et puis l'outillage spécifique après pour le fretage, pour les guitares. Et alors tu peux voir qu'il y a beaucoup de vraiment d'outils, comme là ici ce sont des cintreuses. Donc ça, les cintreuses sont faites, alors c'est des modèles de cintreuses que fabriquait Claude Fouquet, et donc c'est un principe, l'inconvénient on va dire, c'est qu'on fabrique une cintreuse par type de guitare. De toute façon les cintreuses, c'est pour cintrer les éclisses de la guitare, donc le tour de la caisse. Et c'est clair que la forme de chaque guitare est chaque guitare ayant une forme spécifique, il faut cintrer à la bonne forme. Donc lui faisait des cintreuses. On peut aussi cintrer avec le fer que j'ai ici. Donc ça, ça permet de faire un cintrage manuel. Donc pour des instruments où je fabrique pas beaucoup de... Je sais que je vais en fabriquer que quelques-unes. Ou les instruments spécifiques que je fabrique à l'unité, j'utilise le fer à même. Voilà. Donc on mouille le bois, on va le mouiller, on va l'affiner déjà, on va le calibrer à la bonne épaisseur, le mouiller, et puis le fer, contre le fer, on va pouvoir lui donner de le former. Et ensuite, on a des moules qui sont de guitare, dans lequel je vais laisser les éclisses, et elles vont rester dans le moule jusqu'à ce que la caisse soit fermée.
Donc les éclisses, pour les auditeurs, c'est le tour, donc les bords, au-dessus c'est la table, et dessous
c'est le fond.
Voilà, donc les moules c'est pour donner le tour, donc la forme.
On maintient les éclisses à l'intérieur du moule le temps qu'on assemble tout.
Ah d'accord, donc vous utilisez vraiment le moule du début à la fin de la formation de la caisse.
Et ensuite, une fois que la caisse, le fond et la table sont collés, on peut le sortir, on le démoule, et puis on continue le reste des opérations pour finir la guitare.
Oui, donc vous attaquez toujours par la caisse, et après vous faites le manche, la tête, et
le manche,
le talon, c'est ça ?
Oui, il y a le manche, tête et talon, c'est tout, ouais, je fais... Donc ces deux opérations, je peux commencer le manche, des fois je commence le manche avant, hein. Le manche, et puis après il y a la touche qui va venir sur le manche, avec le chevalet qui va venir sur la table, et le chevalet je le colle qu'après vernissage de la guitare. Il y a en gros ces parties-là, il y a la caisse, le manche, la touche, et le chevalet, on va dire, c'est pour simplifier. Donc ici, ben là, on a un fond qui est qui est pas fini parce que le barrage n'est pas sculpté ici. Voilà, j'ai juste,
qu'est-ce que vous appelez le barrage ?
Le barrage, ce sont les barres qui sont en traverse sur le fond, qui vont donner la rigidité au fond et maintiennent en même temps le profil du fond, puisque le fond il est bombé. On est un peu bombé comme ça. Voilà, et donc le fond contribue aussi, le fond et la table contribuent au son de la guitare, à la puissance de la guitare. Et donc on travaille un peu, quand on travaille le barrage, et le barrage du fond au départ, et après le barrage de table, on cherche à avoir un bon, ce qu'on appelle coefficient de mobilité spécifique de la table. Ce qui va traduire un peu la capacité de la guitare à transformer l'énergie transmise par la corde, l'énergie de vibratoire de la corde, en puissance acoustique. Ça associé, alors il ne suffit pas d'avoir un bon coefficient de mobilité spécifique, parce que ça va dépendre aussi, c'est lié à la fréquence des modes de fréquence de vibration de la table. Donc il y a un juste milieu à trouver entre il y a la fréquence et ce coefficient. Donc par expérience, on travaille les barrages et puis on affine en fait l'oreille après. On travaille beaucoup à l'oreille finalement au moment, dans la phase de fabrication de la guitare. Donc je fais des mesures tout au long du process, des mesures, donc j'ai de quoi enregistrer, je fais du tapping sur les tables, j'enregistre les fréquences qui en ressortent. Et tout ça, je le note et ça me sert de à chaque guitare. Là, aujourd'hui, je suis en train de... Ça, c'est la 110e guitare. Donc, je fais à peu près 10 guitares par an et à chaque fois, je compulse toutes les données que je garde de côté. Alors, il y a des données qui sont... c'est par type de guitare en fait qu'il faut raisonner, parce que le travail d'une guitare classique ou d'une guitare folk, et encore dans les guitares folk c'est un modèle Dreadnought, modèle Orchestra, ce sont des modèles Parlor, ce sont des modèles différents qui vont avoir des traitements différents. Mais ça, j'ai maintenant un peu de recul qui me permet de savoir un peu où je vais, alors qu'au début j'étais plutôt dans une phase apprentissage. La formation chez le luthier n'amène pas tout. C'est ce qui est intéressant finalement dans le métier. C'est que si on savait tout dès le départ, ça serait plus marrant, quoi. On a toujours l'impression d'évoluer. Alors, c'est chouette. Ensuite, il y a les modes qui changent aussi. Les sons des guitares change aussi. Alors ça change aussi un peu par le fait des essences de bois. Aujourd'hui on travaille pas mal avec des essences alternatives pour pallier le déficit des bois de type palissandre comme ça, ou ébène même. Mais ça ouvre d'autres univers sonores, même si c'est pas dégradant, quoi, je veux dire, d'avoir une guitare qui est faite en noyer. Le noyer se rapproche pas mal du palissandre. Et en fait, ça, mine de rien, les modes évoluent sur les sons des guitares. C'est comme en électronique, en fait. Dans les années 80, il y a eu une mode où les réverbes étaient poussés à fond un peu dans les... Et puis là, ça revient, ça s'épure un peu plus. Et puis ça rechange, enfin, ça évolue.
Et vous pouvez me citer quelques essences alternatives? Donc vous avez cité le noyer, c'est ça?
Oui, il y a beaucoup d'espèces de fruitiers, de poiriers, donc l'érable. L'érable qui est déjà utilisé depuis longtemps. Hein. Le noyer, très bien. Tous les arbres fruitiers en général sont bien. Bon, après, moi j'en utilise quasiment pas. J'utilise que de l'érable en arbre, en bois, en fait, on peut comprendre entrer en bois alternatif. Que les érables et le noyer. Que ce soit noyer américain ou noyer européen.
D'accord. Donc là,
c'est
donc,
un... Alors, ici, là, oui. C'est, pardon, ici, c'était donc un atelier où je fais de l'électronique, où je fabrique notamment, donc là, j'ai des matériels de mesure, puisque je fabrique mes propres préamplis. Donc, voilà, j'avais, ça, ce sont des petits circuits. Or, ça, c'est la seule partie que je sous-traite, parce qu'en fait, c'est, après, c'est du CMS. J'ai besoin d'avoir des circuits, donc j'ai designé le circuit, et j'ai fait sous-traiter la fabrication du circuit. Il y en a deux, donc il y a ça plus ici un autre circuit pour accueillir les molettes volume et tonalité. Voilà à quoi ressemble un préampli terminé. Voilà, c'est tout petit.
Donc ça, c'est ce que vous mettez dans les guitares pour qu'elles deviennent électroacoustiques.
Enfin, elles sont avant tout acoustiques, mais ça permet juste de pouvoir d'avoir un système de captation. Alors c'est un système de captation type piezo, ouais. Soucié. L'avantage, c'est que c'est très robuste au Larsen. L'inconvénient, c'est que dans l'idée on considère que l'idéal, c'est d'avoir vraiment le son de la guitare juste amplifié, mais pas distordu. Et la meilleure prise de son, c'est une prise de son par micro en façade, de micro de qualité. Mais l'inconvénient après, c'est de gérer le Larsen quand on joue en groupe. Et donc ça, c'est pour l'instant, moi, la meilleure solution que je trouve, la plus robuste au Larsen. C'est le capteur piezo soucié. Après, il faut vraiment travailler l'équilibre entre les cordes. Et ça fait. J'ai l'intention derrière ce système, je l'ai appelé AP1, Acoustic Profile 1, parce qu'un capteur. J'envisage un AP2, donc avec deux capteurs, pour amener un peu d'air, on va dire. Hein. Amener un peu de présence acoustique. Dans le son, mais pour l'instant j'ai pas trouvé encore la solution qui me satisfasse sans avoir de gros problèmes de Larsen. Donc pour l'instant je reste avec cette solution AP1 et je proposerai la P2 quand j'aurai vraiment une solution que je serai suffisamment satisfait, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc j'y travaille en fait que l'hiver souvent là-dessus, électronique, avec des soirées.
D'accord. Et donc en fait, ça serait de mettre deux capteurs sur la guitare, mais à des endroits différents, pour avoir tout le spectre. Ouais. D'accord.
Ça se fait souvent. Donc ils ont un capteur souvent dans la guitare, un deuxième capteur, ou magnétique, ou même voir trois capteurs des fois, magnétique, électrique et soucié ou sous la table aussi, mais bon, après je connais beaucoup de gens qui ont les deux capteurs et qui sont obligés de rester quasiment sur le piezo parce qu'ils ont les soucis de Larsen. Voilà, donc ici c'est le showroom maintenant où j'expose les guitares que j'ai fabriquées.
Donc on peut voir depuis la rue de la Capelle.
Voilà, c'est une boutique où les gens peuvent venir essayer les instruments. Alors je fabrique à peu près un instrument sur deux, enfin je vends un instrument sur deux que j'ai fabriqué.
En série ?
Pas en série, non, que je fabrique. En fait, je fabrique 10 guitares par an, donc je ne peux pas parler de série.
Oui, je vais dire série, un modèle que vous avez déjà fait ?
Non, c'est parce que je fabrique vraiment ce que j'ai envie, je ne fais pas forcément les mêmes modèles chaque fois. Je veux éviter la routine en fait, mais je fabrique sur commande où là j'ai fabriqué ce que j'avais envie de faire et c'est à la vente, mais ça permet aussi aux gens de venir essayer. Je fais des profits de manche un peu différents, ça permet de prendre ses marques un peu, voire faire un choix entre les manches, le type de guitare, et après je fabrique aussi sur commande. Donc les gens, après avoir essayé, peuvent décider de me commander une guitare, de discuter un peu de ce qu'ils veulent, parce qu'ils veulent aussi des fois des incrustations particulières, dédiées, personnalisées. Et sinon, ils peuvent aussi acheter l'instrument quand ils ont un coup de cœur.
D'accord.
Voilà.
Donc vous pouvez nous présenter quelques modèles ?
Alors ici, ça c'est un modèle Dreadnought avec une table cèdre. Parce qu'on va entendre une différence avec une table en Sitka, donc c'est un épicéa d'Alaska. ici c'est une vieille OM, mais c'est un modèle d'avant, on va dire, où j'ai changé les profils. Le format de caisse ne bouge pas, mais j'ai changé le chevalet et la tête. Je redeviens faire du traditionnel de chez Martine, que je propose. C'en est une aussi, mais que j'ai voulu donner avec un look un peu plus vintage, avec une tête ajourée et un chevalet pyramidal. Voilà, ça c'est la table est en adirondack torréfié. Là, en bois alternatif, justement, c'est de l'eucalyptus qui est utilisé en fond.
Et cette couleur rouge, c'est le veinage ou c'est un assemblage ?
Oui, c'est un assemblage, et là, cette partie-là, c'est du padouk.
D'accord.
Mais sinon, les éclisses, le fond, c'est de l'eucalyptus. Après, j'ai une guitare ici, qui est une 12 cordes en format dreadnought, que je fabrique aussi en format OM. Mm-hmm. Et juste pour faire sonner un petit accord. Voilà, avec une table en sitka. C'est un bois que j'adore, moi, le sitka. Une épicéa d'Alaska qui est super. Le fond, c'est du coco bolo avec de l'ébène, un insert là. Et c'est un bois qui est très joli aussi, mais qui fait partie aussi de la famille des palissards en fait.
D'accord, alors là c'est une guitare un peu particulière.
Ouais, ça c'est une guitare hawaïenne.
D'accord, donc, ça se joue à...
Elle tout en courant.
Et ça se joue à plat sur les genoux.
Sauf la touche. La touche, c'est du cormier, c'est un bois local. Mais la touche sur une guitare hawaïenne est juste décorative, finalement. Elle ne sert qu'à donner les repères.
Oui,
parce
donc.
Que quand on la joue, la guitare... Hein, et puis je fabrique des lapsteels qui sont la version électrique à guitare hawaïenne.
D'accord.
Voilà, et ensuite j'ai les cordes nylon, donc j'ai modèle guitare classique. Donc j'ai un modèle ici, j'ai ce modèle là. Et j'ai un modèle ici, mais...
En fret.
Voilà, c'est une guitare fretless. Et là, c'est ce qu'on appelle une guitare crossover, c'est-à-dire qu'elle a, elle a 14 cases orchestre déjà, comparé à une classique qui est en 12 cases orchestre. Donc le chevalet est plus avancé, ce qui fait qu'elle n'aura pas un son vraiment classique, mais elle a un son nylon quand même, puisque c'est les cordes nylon. Un manche moins large, donc souvent les gens qui viennent de la guitare folk, qui veulent un son nylon, vont s'orienter plutôt vers une guitare de ce type, plutôt qu'une guitare classique. Voilà, le manche est moins large. Là, il est en 48, je l'ai fait en 46 aussi.
Mais... C'est super beau. Je vois que vous avez... C'est une mandoline ?
Ouais, ça c'est une... Pour l'instant, c'est une décoration. C'est une mandoline qu'on m'a donnée. Parce qu'elle est toute cassée, quoi. Il faut la remettre en état. Et... voilà. J'en ai remis pas mal en état quand j'ai commencé. Ça m'a bien aidé parce que les gens m'ont un peu aidé, finalement, pour démarrer mon activité. Parce que le temps de faire les premiers salons, eh bien, il faut avoir des instruments. Donc il s'est passé, je me suis installé au mois d'octobre 2013, j'ai fait mon premier salon au mois de juillet 2015. Donc il s'est écoulé un an et demi. pour fabriquer donc quelques instruments pour pouvoir exposer. Et bien, j'ai eu pas mal de dans la phase de démarrage de gens qui m'ont amené une mandoline qu'ils avaient chez eux qui était cassée pour restaurer. Donc ça a été une bonne expérience aussi. Voilà. Après, il manque un instrument ici qui n'est pas là, c'est un guitare oud. Je voulais en refaire un, j'ai pas trop le temps, donc c'est prévu, je vais en faire un. Donc c'est un artiste qui s'appelle Pierre Sfaccini qui m'a demandé de lui fabriquer un instrument qui sonne comme le oud, mais qui soit adapté pour un guitariste.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est le oud ?
Le oud est un instrument nord-africain jusqu'en Orient, et les principaux joueurs de oud se trouvent, je dirais, en Turquie. En tout cas, les meilleurs fabricants sont certainement là-bas. Donc c'est un instrument fretless aussi, mais qui avait des cordes doublées à l'unisson, et qui a un son bien particulier, quoi. Donc pour tout ce qui est musique mondiale arabe, forcément les musiques microtonales comme le fretless permet de sortir du monde tempéré, quoi. Et donc, lui, ce qu'il voulait, c'est un instrument qui soit quand même adapté pour un guitariste, qui n'ait pas la technique à apprendre pour en jouer. Donc, avec la technique d'un guitariste, mais avoir le son du oud. Donc j'ai fait un instrument. Alors, on a fait un accordage un peu... Oui, on l'a accordé plutôt en dadgad, puisqu'il jouait pas mal dans cet open, et c'est ce qu'il désirait. Voilà. Mais il a une forme de caisse complètement différente. Et le manche aussi, mais il respecte, c'est vraiment un mix, un instrument hybride entre la guitare et le oud. Alors un oudiste se fera pas plaisir à jouer dessus, par contre un guitariste prendra du plaisir tout de suite, alors que sur un oud, ça mérite un réapprentissage quand même. Voilà, et bien cet instrument... il a joué alors sur certains albums on le reconnaît pas, parce qu'en fait il a branché sur un ampli, il a aimé le son distordu que donné avec la vieille ampli Fender, et du coup on reconnaît pas trop l'instrument, mais bon, le son lui a plu, il a enregistré comme ça. Par contre, là où on l'entend bien, c'est sur un morceau de Ben Harper où il joue l'instrument, il a fait un arrangement dessus qui est très joli. Et ça, c'est un gros cadeau qu'il m'a fait, d'aller jouer sur un album de Ben Harper.
On vous partagera dans cette émission ce morceau de Ben Harper avec Pierre Sfaccini, c'est ça ?
Ouais,
Pierre
Sfaccini.
Voilà. Eh bien, merci Michel pour cette interview, cette visite de vos ateliers, de votre showroom. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Au revoir.
You looked at me and my skin jumped from my bones. I knew I would never be alone. Bring me your day's dust. You're staying here, you'll be staying with me, I trust. If tomorrow starts today, we'd best be on our way. There's no time to waste, only you'll restore my faith. Mistakes I'm destined to repeat till I get there right. Walk with me into the wild.